Vaucluse.
Oui, c'est Pierre-Carl. C'est pour Alexia. En fait, oui, il n'y a pas de problème. On veut enregistrer du son là, lors de la... Là, je sais plus quoi, là, de la présentation ce soir de Niveli Traite qui s'appelle maintenant Guérilla Française, qui a changé de titre, et de fin de concession demain. Voilà. Mais à tout à l'heure. Salut.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Forêt Reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM à Périgueux et sur Radio Plaisance 95.9 en Périgord Noir.
Alors, le 30 novembre, Pierre-Carl présentait son film « Fin de concession » au cinéma de Périgueux. Lors de notre dernière émission, vous avez pu entendre la première partie des échanges avec les spectateurs. Nous écoutons aujourd'hui la deuxième partie, tout de suite.
C'était pas sur la forme que je voulais rebondir, c'était sur le fond. Est-ce que pour vous, cette servilité, enfin ce que vous avez appelé la servilité, ça va encore plus loin? Par exemple, quand je prends... l'exemple de Didier Porte, ou qui sont des humoristes qui ont été, le sentiment un peu des gens, c'est qu'ils n'ont pas plu aux politiques et qu'ils sont sortis par la porte de derrière. Est-ce que pour vous, ça, c'est encore pire la situation de nos jours? Par exemple, par rapport à moi qui n'ai pas autant de recul que vous sur la situation telle qu'elle était. Par contre, oui, je rebondis, je suis d'accord avec le monsieur, j'ai pas vu vos films avant et moi j'ai très bien compris...
La situation est pire aujourd'hui que quand, qu'il y a 20 ans, à l'époque où je faisais Pas vu, pas pris, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, certaines personnes sont décomplexées. Par exemple, Sarkozy ne cache pas ses liens de proximité avec Martin Bouygues, qui est il y a peut-être 20 ans, ils auraient pas étalé ces relations-là. Enfin, le fait qu'il est parrain de son fils, c'est Martin Bouygues qui est parrain du fils de Sarkozy. Ou témoin de son mariage, je ne sais plus. Donc, il y a aujourd'hui depuis que Sarkozy est président, ils sont relativement décomplexés, c'est-à-dire qu'ils ne cachent même pas, lui ne cache même pas qu'il est proche de grands industriels, de Martin Bouygues, de Arnaud Lagardère, de Vincent Bolloré. Enfin, il s'en cache même pas, quoi. Et du côté des journalistes. Jusqu'à présent, ils s'en foutaient un peu ou pas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le fait que certains responsables de l'information côtoient ces hommes d'affaires, ces hommes politiques, ces responsables de... Est-ce qu'ils se cachent, est-ce qu'ils se cachent pas? Non, ça reste quand même relativement tabou. Ils assument pas trop le fait, ils aiment pas trop qu'on aille, par exemple, comme au dîner du siècle, il y a 3 jours, Christine Ockrent a rebroussé chemin. Quand elle a vu le bordel qu'on était en train de foutre devant le dîner du siècle, elle est repartie, quoi. Elle avait pas envie d'être filmée, en train d'accéder à ce lieu. Donc, ils ont quand même ils savent que c'est pas très bien, ils savent que c'est pas très bien, ils savent que c'est pas très, que c'est pas normal, qu'ils fassent partie de ces clubs, qu'ils aillent côtoyer ces puissants, parce que malgré tout, chez les journalistes, il y a le sentiment, enfin, dans les écoles de journalisme, à la fois on vous apprend à être docile, à faire le sale boulot, à travailler vite, donc à ne pas se poser de questions, et finalement à faire le jeu du pouvoir économique ou politique, et en même temps, on continue d'entretenir cette fiction que le journaliste à la Albert Londres, celui qui va sur le terrain, celui qui exerce un contre-pouvoir, qui révèle des choses qui sont cachées, est une figure positive. Ça continue d'être présenté comme... Donc il y a ce décalage entre cette mythologie qui continue d'exister, celle du journaliste qui exerce le rôle de contre-pouvoir et qui va dénoncer les scandales, qui va expliquer ce qui se passe dans les bas-fonds de la société, etc. Donc ça continue d'être dans l'espace public, d'être dans l'inconscient collectif. Il y a toujours cette idée du journaliste qui exerce le rôle de contre-pouvoir. Mais les écoles de journalisme, en tout cas, forment des gens qui sont aux antipodes de... Même s'ils continuent d'entretenir cette fiction, les gens qui sont formés vont faire le sale boulot, quoi. Donc voilà, je sais pas si ça évolue, si ça change, si ça... Ce qui est sûr, c'est que les conditions... Voilà, ça, ce qui est sûr, c'est que les conditions économiques de fabrication de l'information se dégradent en permanence. De plus en plus, vous travaillez vite... Donc vous posez pas de questions. Hier, j'ai été interviewé par une journaliste de la Dordogne Libre qui me racontait qu'elle faisait 5 reportages dans la journée. Qu'est-ce qu'elle peut faire si ce n'est des choses superficielles, survoler les choses, si ce n'est tendre des micros, ne même pas voir les films. Elle me posait des questions, elle n'avait pas vu mon film. Elle, voilà, elle n'avait pas le temps. Il fallait qu'elle pisse de la copie, comme on dit, hein, pisser de la copie.
Oyez, bonnes gens, la triste complainte d'Yvonne Le Gall. Trèverdin, Yvonne Le Gall va chercher son journal.
West, West, West France. West, West, West France.
C'est pour son quotidien qu'elle sort tous les matins. Pauvre retraité, ignore sa destinée.
West, West, West France. West, West, West France.
Quand la benne à ordure, lancée à toute figure, a chopé la mémé par de plein fouet.
West, West, West France. West, West, West France.
West France, tu n'as pas de chance. Merci West France, tu n'as pas de chance. Merci West France, tu n'as pas de chance. Merci West France, tu n'as pas de chance.
West, West, West France. West, West, West France.
Yvonne Le Gall, c'était fatal. A péri de malheur, victime d'un éboueur.
West, West, West France. West, West, West France. West, West, West France. West, West, West France.
Et voilà, le boulot de journaliste aujourd'hui, c'est de travailler dans des conditions de plus en plus précaires. Il y a un très bon bouquin de Alain Accardo, Gilles Balbastre et d'autres sur les effets de la docilité, enfin de la précarité sur la docilité. Plus on est précaire, plus on travaille à la journée, en CDD, en pige, moins vous allez prendre de risques de vous faire virer, de plus avoir de boulot. Donc vous allez faire ce qu'on attend de vous. Vous n'allez pas vous amuser à être indépendant. Vous allez être docile. Docile, c'est-à-dire faire ce qu'attend le patron, quoi, ce qu'attend le rédacteur en chef qui attend, qui va pas faire de vagues. Donc, les conditions économiques de production de l'information, la précarité croissante, font que le boulot de journaliste aujourd'hui est exercé. Même si les gens ont de bonnes intentions, même s'ils ont envie de faire du journalisme à l'Albert Londres, ils n'ont pas de lieu pour l'exercer. Là, je parle des journalistes de base. Je ne parle pas des journalistes responsables de l'information qui, eux, font partie d'une autre sphère et font partie de la sphère du pouvoir. Mais les journalistes de base, la plupart, sont dans des conditions merdiques de production. Et je vous dis, à part le milieu de l'édition, où on peut faire des enquêtes sur des mois, la seule enquête sur TF1 sérieuse, costaud, d'investigation, c'est Pierre Péan et Christophe Nick. Je crois qu'elle est citée dans le film, à un moment donné, le bouquin qui s'appelle TF1 un pouvoir, qui a été réalisé en 95 ou 94, 10 ans ou 8, 9 ans après la privatisation de TF1. C'est le seul bouquin un peu sérieux, costaud là-dessus. Il n'y a rien eu à la télévision, il n'y a rien eu à la radio, il y a peu de choses à la radio, peu de choses dans la presse écrite. C'est le seul lieu où on peut faire encore du journalisme à l'ancienne, c'est-à-dire au sens noble du terme, le milieu de l'édition. Voilà. Et puis quelques documentaires peut-être. Voilà. Mais les conditions économiques de production du journalisme se dégradent en permanence, ça c'est sûr.
J'ai une question à vous poser, Pierre-Carl. Pardon. Qu'est-ce que vous recherchiez quand vous êtes entré à la télévision, quand vous avez débuté dans les médias, quand vous avez travaillé à TF1, par exemple? Quelles étaient vos motivations, plus jeunes?
Alors, j'ai pas vraiment travaillé à TF1. J'ai été pendant quelques heures sur un plateau d'émission, celui de Ciel Mon Mardi de Chavannes, où il a tout de suite compris qu'il fallait pas que je reste longtemps. Donc on peut pas dire que j'ai travaillé à TF1. Moi, quand je suis rentré en fait dans l'univers du journalisme en faisant une école de journalisme à Bordeaux, c'est parce que j'avais échoué à la FEMIS, qui est l'école de cinéma. Donc j'étais plutôt parti pour faire du cinéma, et en ayant échoué à rentrer dans une école de cinéma, j'ai fait une école de journalisme qui formait des caméramans aussi. Donc c'était pour rester dans le milieu de l'image. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à la télévision, mais c'est presque une erreur. C'est-à-dire que j'avais pas un parcours qui devait me conduire logiquement dans cet univers-là. Et quand je me suis retrouvé dans cet univers-là, je me suis dit, profitons-en pour voir ce qui s'y passe, quoi. Et testons les limites de cet univers. Ils prétendent qu'on est libre, qu'on a carte blanche. Donc à chaque fois, je poussais le système médiatique ou télévisuel dans ses retranchements. Quand j'étais dans une émission, j'essayais de voir jusqu'où on pouvait aller, et souvent, on me faisait comprendre rapidement qu'on pouvait pas aller plus loin que là. Et après, une fois que je me suis fait virer de cet univers, j'ai commencé par raconter ce que j'avais pu observer dans cet univers sans y être vraiment sans avoir collaboré réellement à cet univers, à l'extérieur, dans mon premier film, Pas vu, pas pris. Donc j'étais un peu par accident dans cet univers. Voilà. J'étais pas là pour... Et j'ai eu la chance aussi de me faire virer très vite de tout un tas d'émissions, parce que c'est un univers, la télévision à l'époque, c'est encore le cas, où vous aviez des salaires qui n'avaient aucun rapport avec la moyenne des salaires de la population française. Moi, quand je suis rentré à la télé, j'avais 26 ans, je me suis mis à gagner 3 fois le SMIC en faisant une chronique chez Bernard Rabe dans l'émission L'Assiette Anglaise. Ça n'avait aucun rapport avec mes compétences, mon niveau d'études, mais c'était surpayé. Donc quand vous rentrez dans un univers où vous êtes surpayé, vous avez tout un tas de gratifications, de la notoriété, des éditeurs qui viennent vous voir pour éditer à 30 balais des bouquins que vous n'avez même pas fait parce que vous êtes connu. Toutes ces gratifications économiques, symboliques et autres font qu'à un moment donné, vous devenez accro. Vous ne pouvez plus quitter cet univers parce que vous avez été acheté par ces puissances, par cet argent, par cette notoriété, par ces gratifications. Donc la plupart des gens qui sont à la télé ne veulent surtout pas qu'on leur pique leur place, ne veulent pas perdre les avantages qui sont liés à leur fonction, et font tout ce qui est en leur pouvoir pour rester au pouvoir ou pour rester dans ce lieu. Ils ont été rendus accros au niveau de vie qui est celui des gens de télévision, etc. etc. Donc c'est un lieu extrêmement, dangereux pour des jeunes gens, parce que vous êtes acheté, on vous achète. Moi, j'ai eu la chance de ne pas y rester suffisamment longtemps, de me faire virer très vite, d'être un peu kamikaze et d'avoir un comportement un peu suicidaire dans cet univers pour ne pas m'y attacher. Voilà, ne pas m'y attacher, ne pas avoir été acheté.
Je suis peut-être arrivé au stade de vieux con, mais en attendant... Il y a quand même 20 ou 30 ans, on avait des journaux quand même qui faisaient 40, 50 des pages. Ouais. Il y avait moins de pubs. Maintenant, il y a beaucoup de pubs. Il n'y a plus de presse. Ils ont viré au fur et à mesure les journalistes qui étaient intéressants. Mais moi, je ne plains pas que la presse, elle se casse la gueule. Il n'y a rien à lire. Donc, autant j'ai aimé acheter les journaux, autant maintenant, je trouve que c'est la suite logique des choses, que ça se casse la gueule. Il y a quand même des journaux qui tiennent sans pub. Hein. Bon, ça, c'est important. Et à mon avis, bon, quand il y a du fond, il peut y avoir des clients. S'il n'y en a pas, ben... C'est bien dégradé. Maintenant, la télé, on peut aussi ne pas la regarder quand même.
Alors, plusieurs choses. D'abord, la télé, on peut ne pas la regarder. Il y a plein de gens qui me disent « Oui, moi, je ne regarde pas la télé, donc je ne suis pas sensible à ce qu'elle produit comme effet. » En réalité, la télé, même si on ne la regarde pas, on n'y échappe pas. Parce qu'elle est tellement puissante qu'elle arrive quand même à nous foutre des sujets de conversation de bureau ou quand on n'est pas au bureau, de je ne sais pas quoi. Enfin, vous avez forcément entendu parler de Secret Story ou de la télé-réalité. La Star Academy ou des trucs comme ça, ces émissions qui défendent ces valeurs hyper individualistes de écrase ton voisin, machin. Enfin, on a tous entendu parler de ça. On a tous été obligés de se positionner d'une manière ou d'une autre par rapport à ça, même si on n'a pas la télé. C'est-à-dire qu'elle a la capacité, la télé, d'arriver partout dans la société, à moins d'être ermite et de vivre au fin fond de la forêt de je ne sais où, de Brocéliande ou en Dordogne. La télé a la capacité quand même de s'immiscer partout et elle reste très puissante de ce point de vue-là. La consommation de télévision d'ailleurs va toujours augmentant, alors pas ici dans cette salle, je pense qu'ici on a tous un niveau culturel relativement élevé, on est tous capables de se défendre un peu de ce truc là mais la télé ça continue d'avoir une consommation croissante dans l'histoire de ce pays et elle est pas encore sur le déclin, elle sera peut-être un jour mais et en plus elle prend d'autres formes, hein. Elle arrive sur les téléphones portables, elle arrive sur internet, elle s'immisce partout, la télé au sens large du terme. D'ailleurs le film, je ne sais pas si je réponds à une question qui a été posée à une époque, mais le film, à la fin, pourquoi il ne s'intéresse plus à TF1 aussi, c'est parce que, et pourquoi il se termine sur cette séquence où Pujadas lance, après l'interview de Sarkozy, il lance une série américaine, c'est parce que là on voit que TF1 a tout contaminé, hein, TF1 a tout contaminé, c'est-à-dire que se battre contre TF1 aujourd'hui c'est presque... un combat d'arrière-garde, c'est se battre contre la contamination généralisée de la télé par TF1, par ce TF1 de privatisé de 87.
La famille est installée devant la télé du salon. Pendant que le monde est allumé, on tape moins fort sur les lardons. La télé commande bloquée entre la pub et l'apéro. On a regardé les surgelés, on bouffe le speaker, les infos. Un faux match, une petite guerre pour pas réveiller pépère. Une bonne bière, quelques nanas pour faire plaisir à papa. Un chanteur, une belle promo pour endormir les marmots. Un aspo, une belle civière pour faire plaisir à ma mère. Pub. Pub. La télé-réalité en famille, c'est les allers-retours au WC avec les marmots qui roupillent dans les mégots du canapé. Un attentat sur l'écran, on se réveille un petit quart d'heure et papa remonte sur maman pour remettre l'antenne à l'heure. Un bon match, une petite guerre pour pas réveiller pépère. Une bonne bière, quelques nanas pour faire plaisir à papa. Un chanteur, une belle promo pour endormir les marmots. Un aspro, une belle civière pour faire plaisir à ma mère. Pub.
Je vous demande de vous arrêter.
Pub.
La culture qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la tête.
Je vous demande de vous arrêter.
Il y a ceux qui sont payés pour rire, ceux qui sont nés pour regarder. Il y a les salauds, ceux qu'on admire, et tous ces trucs chouettes à gagner. Il se passe tellement de choses ailleurs qu'on n'a plus le temps de se bouger. Il faut l'amortir son compteur, les yeux dans l'électricité. Les surendettés de l'image regardent passer le quart monde entre météo et fromage. Entre les chiottes et une petite bombe, faudrait leur greffer des rétines à l'endroit où les autres ont mal. Maman s'emmerde dans sa cuisine, papa s'endort dans son journal. Un bon match, une petite guerre pour pas réveiller pépère. Une bonne bière, quelques nanas pour faire plaisir à papa. Un chanteur, une belle promo pour endormir les marmots. Un aspro, une belle civière pour faire plaisir à ma mère. Pub.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande. De vous arrêter.
Un bon match, une petite guerre pour pas réveiller pépère. Une bonne bière, quelques nanas pour faire plaisir à papa. Un chanteur, une belle promo pour endormir les marmots. Un aspro, une belle civière pour faire plaisir à ma mère.
Je vous demande de vous arrêter.
Pub.
Mais donc la télé, je pense qu'elle est, voilà, il faut, on peut pas faire la télé, elle est capable d'avoir c'est elle qui a sélectionné en 2007 deux candidats à l'élection présidentielle, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, et qui nous a fait croire qu'il n'y avait pas d'autre choix possible que ce choix-là, que c'était le seul choix de société possible. C'est elle qui a quand même été capable de faire cette sélection, d'opérer cette sélection, et c'est elle qui est en train de nous faire le coup de l'alternative à Sarkozy, c'est Dominique Strauss-Kahn. C'est elle qui nous fait ce coup-là en ce moment, qui est en train de le préparer ce coup. Qui est en train de nous dire mais non, c'est le plus populaire des socialistes, c'est celui qui est attendu, il est désiré, il est, enfin, elle nous l'instille et nous le matraque tous les jours, petit à petit, comme ça, mine de rien. Et il y a un moment, on va se dire oui, finalement, c'est pas mal, Strauss-Kahn, on n'aura pas choisi, on aura été manipulé, quoi. Bon, ça aurait été tellement dans l'air que l'on respire qu'on aura du mal à l'oublier. Donc elle a quand même cette capacité, la télé. Hein. Après, la presse écrite, il y a encore des journaux indépendants, vraiment indépendants. Il y a des journaux alternatifs. Vous connaissez peut-être Fakir, que fait un ancien journaliste repenti ou pas repenti, un vrai journaliste, François Ruffin, qui fait de la vraie enquête sociale, ce journal. Vous avez des journaux comme CQFD, vous avez Le Monde Diplomatique, que font des copains, là, qu'on voit, là, Serge Halimi, Pierre Imbert. Vous avez... il y a encore des lieux indépendants qui, avec des enquêtes, avec des gens qui vont sur le terrain, qui racontent pas les conneries qu'ils racontent la télé. Ça existe encore, ça. Et si ça disparaissait, on serait quand même bien emmerdé. Vous avez encore l'émission de Daniel Mermet qui fait quand même un peu d'enquête aussi. Vous avez quelques lieux comme ça qu'il faut quand même sauvegarder, parce que sinon, je crois qu'on n'a pas encore mesuré à quel point les nouveaux écrans qui sont en train d'arriver, Internet, qui a aussi des aspects positifs par ailleurs. Hein. Internet, c'est pas, je le vois pas comme quelque chose de négatif forcément, mais qui est quand même un lieu avec des enjeux de pouvoir énormes, avec des grands groupes industriels, des multinationales comme Facebook, Google, qui sont en train de tout prendre, enfin d'essayer de récupérer ce truc-là. Le jour où on sera complètement accro de ces écrans-là, comme les fabricants ou comme ces grandes multinationales essaient de le faire avec les jeunes, avec les gamins, avec les ados, de les rendre accros de ces écrans-là, on va regretter le temps où il y avait de la presse écrite, quoi, hein, parce que là, ça va être une entreprise d'occupation des esprits dont on n'a pas. Hein. Je crois que là, George Orwell se réalise. Hein, 1984, on y sera, quoi. Hein. Ça sera en 2014 ou 24, mais on y sera. Oui et non. Oui et non. Alors, il y a plein d'infos. On a l'impression qu'effectivement, par exemple, l'affaire Bettencourt est sortie sur Internet parce que le site Mediapart a sorti les carnets, enfin les comptes rendus, les retranscriptions, pardon, des propos tenus devant le dictaphone là du majordome. Oui, mais en même temps, les documents déclassifiés américains là qui sont en ce moment en ligne sur la manière dont les États-Unis parlent des autres pays du monde à travers des câbles diplomatiques. Bon. Effectivement, ça c'est sur Internet, mais en même temps, c'est toujours, comment dire, Internet ne fait pas d'enquête. Il n'y a pas de vraie enquête sur Internet. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'enquête sur TF1 sur Internet. Internet relaie des choses qui existent déjà. S'il n'y avait pas ce majordome s'il n'y avait pas ce serviteur des puissants, le majordome de Yann Bettencourt qui était allé foutre son dictaphone sur la table de sa maîtresse, voilà, il n'y aurait pas eu ces informations sur Internet. C'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait le boulot quand même, hein, qui a fait le boulot d'aller infiltrer les puissants, qui a fait le boulot d'aller, voilà. Alors, attention, parce que vous vous souvenez de cette expression, on disait que les dictatures, c'était « ferme ta gueule » et que la démocratie, c'est « cause toujours ». Donc je pense que l'ère d'Internet, c'est « cause toujours ». Hein, c'est cause toujours. Tu peux raconter tout ce que tu veux, c'est noyé dans une masse, on s'en fout. Voilà, je pense que la vraie censure, la censure qui nous attend là, c'est pas ferme ta gueule, c'est pas cache-nous des choses, c'est cause toujours. Je pense qu'on est plutôt en train d'aller dans cette direction. Et voilà, on verra. Bon, on verra. Là, je spécule, je vais pas jouer les prophètes, mais je pense que c'est la direction qu'on emprunte.
Quels sont vos rapports avec Daniel Mermet, s'il vous plaît ?
J'ai pas de rapport particulier. Il m'a invité à plusieurs reprises dans ses émissions pour parler de mon travail, pour présenter mon travail. Il y a plusieurs émissions qui ont été consacrées à mes films. Mais après, je travaille pas pour Mermet et Mermet ne travaille pas pour moi. On est indépendants. Mais c'est l'une des rares émissions qui, je sais plus, j'ai écouté par exemple pendant le mouvement social. Contre la réforme des retraites, il y a un reporter, Julien Brigaud, qui est allé passer une nuit avec les ouvriers en grève dans une raffinerie, je ne sais plus laquelle, aux portes de Paris. Bon, c'est des reportages qu'on ne voyait pas trop ailleurs, ce genre de choses, passer une nuit avec ces ouvriers. Quoi. Et on avait juste souvent, dans les grands médias, l'action spectaculaire des CRS qui venaient délivrer, libérer, entre guillemets, le dépôt en question, mais on n'avait pas le point de vue de ceux qui avaient passé la nuit pour bloquer le dépôt. Voilà. Donc c'est un espace où on entend des choses, un espace de journalisme, on entend des choses que l'on entend peu ailleurs, l'émission de Mermet. Mais je ne travaille pas avec lui.
Oui, juste une question par rapport aux médias. C'est vrai qu'il y a quelques années, tous les médias avaient appelé à voter oui pour la Constitution européenne et le peuple avait voté non. Donc, est-ce que c'est quoi ? C'est une goutte dans un océan ou comment avez-vous interprété ce décalage entre les puissances médiatiques et la volonté du peuple ?
Ça marche pas à tous les coups, hein, le fait de... Les médias, en fait, ne sont pas capables de nous dire pour qui voter. ils sont capables de fermer l'espace des possibles. Hein, ils sont capables de fermer le choix. Ce qu'ils ont fait en disant, voilà, ils disaient pas voter Sarkozy. Ils disaient, mais ils ne disaient pas que voter Sarkozy. C'était plus fin. C'était voter Sarkozy ou Ségolène Royal. Ce qu'ils nous disaient pas, par contre, c'était que l'écart entre les deux programmes n'était pas si important que ça. Voilà. Et ils écartaient toute autre possibilité de choix politique, d'aller voter pour des gens qui veulent vraiment changer la société. Ça, c'était inimaginable, impensable, et il n'était même pas question d'en discuter. Donc, ils sont plus malins. Alors là, sur l'histoire du référendum, c'était trop grossier. C'était vous votez oui, vous n'avez pas le choix. Hein. Il ne faut pas imaginer un autre choix. Donc, c'était tellement grossier qu'il y a une réaction qui s'est retournée contre eux quand l'imposition était trop grossière. Après, je me souviens aussi l'époque où Balladur n'a pas été élu président de la République en 95, alors que c'était le candidat favori des médias. Hein. C'était Balladur président et Sarkozy devait être premier ministre de Balladur en 1995. Ça a échoué. C'est Chirac qui est devenu. Mais est-ce que Chirac, c'était si différent que cela? Aujourd'hui, on a l'impression que Chirac, c'était un type de gauche. Si on regarde ce qu'on en raconte, hein, son programme était quand même, c'était ministre de l'Intérieur, c'était Nicolas Sarkozy, hein, sous Chirac. Donc, il s'était pas si éloigné que cela. Mais ça marche pas à tous les coups. Les manips, les grosses manips, grossières, marchent pas à tous les coups. Maintenant, là où les médias sont, enfin les grands médias sont, je pense, très forts, c'est pour qu'on n'ait pas d'utopie. Voilà, c'est qu'on, en gros, leur truc, c'est pas de nous dire voter pour un tel ou penser ceci, c'est n'imaginez pas autre chose, n'imaginez pas une autre société que celle-ci. C'est vrai, elle déconne, c'est vrai, il y a des pauvres, c'est vrai, il y a des SDF, c'est vrai, il y a des ouvriers qui souffrent. On vous le concède. Voilà, là, je retranscris un peu le discours. On vous le concède, mais n'imaginez pas qu'il puisse y en avoir une autre. N'imaginez pas qu'il puisse y avoir une société dans laquelle on remette en cause la société de consommation radicalement. N'imaginez pas ça. Ça, l'imaginez pas, c'est pas la peine. Ça, on vous l'autorisera pas, ça. Donc, elles ferment l'espace de l'utopie. Voilà. Ça, c'est leur grande force. C'est leur grande force de cette télévision, de ces grands médias. C'est de pas nous donner la possibilité d'inventer d'autres formes de société et d'utopie. Pas, hein, parce que d'abord le 20h TF1 il a une vision politique de la société tout ça, mais il n'y a pas que le 20h. Je pense que dans tous les programmes de TF1, là-dessus je pense qu'il a raison, hein, Montebourg.
C'est la télévision de la droite, c'est tout. C'est la télévision des idées qui détruisent la France pour moi. La télévision de l'individualisme, la télévision du fric, la télévision du matraquage sur la sécurité, voilà.
Tous les programmes de TF1 ou les programmes qui ont contaminé pas simplement les autres chaînes, mais tout l'espace audiovisuel. Il y a qu'à voir les films américains, ce qu'on peut regarder au cinéma, ou les grands films commerciaux français. Ce sont les mêmes valeurs, c'est le même individualisme qui est toujours mis en avant, qui est toujours valorisé. C'est toujours, seuls les self-made men vont l'emporter, ceux qui se construisent tout seuls. Donc le collectif, ça n'existe pas, on va s'en sortir. L'illusion que même si on est au plus bas dans l'échelle sociale, on a toujours la possibilité un jour de devenir quelqu'un d'important et de réussir dans la vie, enfin toutes ces conneries-là sont matraquées en permanence par la télé-réalité, par tout un tas de programmes qui vont bien au-delà de TF1. Et les jeunes qui regardent pas TF1 ou qui regardent pas la télé, ils regardent d'autres types de programmes, par Internet ou par d'autres... En fait, il faut pas croire que parce qu'on regarde pas TF1, on n'est pas, TF1 au sens large du terme, on n'est pas contaminé par TF1. Voilà. Je pense que c'est une c'est faux de croire cela. TF1, ça n'existe plus comme une chaîne leader qui pourrait imposer son point de vue sur la société à l'ensemble de la population. Ça n'existe plus en tant que tel. mais l'esprit TF1, ce que représente de valeur TF1, ce que promeut comme valeur TF1, l'hyper-individualisme, la consommation à outrance, la religion de la croissance, du productivisme, enfin tous ces trucs-là qui sont présentés comme des valeurs positives, tout le reste étant présenté comme des valeurs négatives, les grèves c'est présenté comme des valeurs négatives, bon, tout ça c'est quand même présent ailleurs, dans d'autres espaces, dans d'autres interstices, pas forcément sur la chaîne TF1. Et je pense que les jeunes qui regardent des jeux vidéo, qui regardent je sais pas quoi, ces valeurs-là, elles y sont hein, dedans, hein. Il n'y a qu'à voir les valeurs que promeuvent les jeux vidéo. Hein. Je vous conseille, c'est des valeurs quand même d'ultra-individualisme, de compétition à outrance, écrase ton voisin, c'est comme ça que tu vas l'emporter. Enfin voilà. Donc TF1, c'est partout TF1 maintenant.
Oui, oui, la preuve, on l'a vu tout à l'heure avec Apathy, sa réaction par rapport à l'attaque à l'individualisme. Enfin, il était presque hystérique, quoi. On le reconnaît pas, Apathy. Là.
Pour lui, c'est... mettre en cause l'individualisme, c'est impensable, quoi.
Bon, par contre, pour revenir sur Internet, moi, c'est vrai que ça me faisait un peu peur. J'ai lu, il y a 35 ans, j'ai lu Orwell, Huxley, maintenant je lis Ben Elton ou des mecs comme ça qui disent la même chose, plus actuel, plus pointu. Mais c'est grâce à Internet que je vous ai découvert, par exemple.
Oui, non, je dis pas que tout est négatif dans Internet. Moi, il y a des hackers là qui m'ont appelé en me disant il faut que tu sois plus présent sur Internet. On va te fabriquer un site, on va te mettre sur un. Il faut que tes films soient plus visibles. Ils sont en train de me préparer un site, les types. C'est des hackers, c'est des pirates d'Internet. Bon, pirate pour moi c'est pas négatif. Pour nous non plus. Donc voilà, il y a des gens sur Internet qui font des choses où ils essaient de détourner ou de revenir à l'Internet des origines. C'est un espèce de réseau qui échappe au contrôle d'un pouvoir central. Voilà. Sauf que les multinationales, elles, c'est pas ça qu'elles veulent. Elles veulent Facebook, ils veulent nous fliquer. Facebook, ils veulent faire une base de données avec 6 milliards de personnes dans le monde. C'est ce qu'ils sont en train de préparer.
Oui, on en décroche.
Voilà. Ils sont en train de le faire.
Même c'est pas sans Internet, de toute façon, on est fliqué n'importe comment.
Non, fliqué au niveau où Facebook flique les gens, c'est-à-dire avec leur propre consentement. C'est eux qui remplissent les fiches. C'est-à-dire que sur Facebook, c'est nous qui remplissons la fiche de police. J'en ai pas, hein. C'est quand même extraordinaire, ça. C'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Donc, il faut quand même se méfier des usages extrêmement dangereux qui peuvent être faits d'Internet. Mais il y a par ailleurs des usages intéressants. Moi, effectivement, j'ai pu faire circuler des choses que j'aurais pas pu faire circuler autrement. Mais il faut quand même ne pas être. Il faut pas d'angélisme par rapport à Internet, hein. Une dernière question, s'il y en a, ou une dernière réflexion, s'il y en a une, ou pas. Si. Oui.
Deux.
Oui.
Trois.
Allez, les trois dernières, et puis après, hein,
on va commencer par sur la gauche.
On va les regarder TF1 après. Hein.
Mademoiselle.
Moi, je voulais juste dire que vous vouliez faire du cinéma, ben maintenant vous êtes un acteur, tout simplement.
J'ai pas compris, je voulais faire du cinéma, oui, et que maintenant.
Eh bien, vous êtes un acteur, vous auriez dû... Enfin bref, vous êtes un acteur également dans ce film documentaire.
Dès qu'il y a une caméra, effectivement, on est un acteur. Il y a une
donc
très belle phrase.
Réussi.
Ah, je voulais faire du cinéma comme réalisateur. Hein. Je voulais rentrer dans une école de cinéma pour faire de la réalisation de films ou du montage même à l'époque. Il y a une très belle phrase de Sacha Guitry qui dit qu'on est tous des comédiens sauf quelques acteurs.
Oui, alors je sais pas si c'est une question, mais je me posais la question justement par rapport à l'image. Et bon, là c'est le cinéma. Tu parles sur la télévision. Ça m'a fait penser à plusieurs réflexions parce que j'ai eu quelques trucs sur les médias et puis ça m'a fait penser à un livre aussi sur ça s'appelle La misère en milieu publicitaire. Où il y a une réflexion et ils disent notamment que le média est le message, que justement. En remontant aux origines de la pub, et je pense que par rapport à la télévision et autour des médias, justement, c'est peut-être ma question. Est-ce que cette phrase pourrait résumer aussi un peu cette idée-là par rapport à la télévision ? Et est-ce que l'image, le fait d'utiliser l'image contre l'image, c'est assez subversif et ça peut justement arriver à faire quelque chose ?
Je, Je sais pas, enfin, j'ai pas réfléchi à la question, donc je vais pas répondre comme ça à un brûle pour point, sans dire de, enfin, je vais sûrement dire des conneries, mais en tout cas, mon souci à moi en tant que réalisateur, c'est de, je me pose la question de savoir à quel point mes images peuvent être récupérées par la société du spectacle. Voilà. Ça, c'est une question que je me pose. À quel point mon travail peut être digéré, à quel point mon travail peut, il le saura, forcément, un jour, il le saura, un jour, la télé va dire, tiens, on va faire une rétrospective Pierre Carl. Et là, c'est vrai que je vais me poser des questions sur mon boulot, quoi. Pour l'instant, elle n'y est pas arrivée. Pour l'instant, elle n'y est pas arrivée parce qu'il y a une règle que je ne respecte pas, c'est celle du pseudo-équilibre, déjà. C'est-à-dire que dans les films, vous devez, si vous attaquez quelqu'un, vous devez donner la parole à la défense. Et on ne tient jamais compte du fait qu'il y a certains discours qui sont hégémoniques, et d'autres minoritaires, alors que moi je tiens compte de cela, c'est-à-dire que je donne pas la parole à TF1 dans le film, parce que TF1 ils ont déjà la possibilité en permanence de s'exprimer, parce que le point de vue de TF1 il est déjà hégémonique, il est partout, donc je vais pas en plus leur donner la parole dans mon film qui lui est un objet dissident, minoritaire, et donc il faut la revendiquer. Je l'ai fait dans tous mes films, dans tous les films que j'ai réalisés ou co-réalisés, quand on fait Voler, Marin, Foutre, Alpaïs ou Attention, Danger, Travail, on donne pas la parole au MEDEF, ou alors on se fout de la gueule du MEDEF, parce que le MEDEF, il a déjà tout le temps la parole. Donc il faut faire de la discrimination positive, là, pour le coup, et la revendiquer. C'est ce qu'on fait. Donc ça, c'est considéré comme pas bien par les gens de télévision, ça, ou par les gens du spectacle. Ça, c'est pas bien. C'est pas démocratique. Voilà. C'est pas démocratique. J'ai un autre film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Enfin pris, dans lequel cette question est abordée. Et on a un débat dans ce film avec un critique qui s'appelle Daniel Schneiderman, pour l'invitation de Bourdieu dans une émission à la télévision à l'époque, dans les années 1997-18. Schneiderman veut absolument opposer un contradicteur à Bourdieu qui vient à propos de ses analyses sur la télévision, et moi qui est chargé de négocier pour Bourdieu cette émission, j'explique à Schneiderman que les analyses de Bourdieu n'étant pas encore connues et divulguées et vulgarisées, il faut d'abord qu'il puisse les exposer avant qu'on puisse les critiquer. Donc je refuse son dispositif. Et lui, finalement, ne veut absolument pas se rendre à mes arguments et annule l'émission. Enfin, fait une émission critique uniquement sur Bourdieu. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, respectant pas ces règles qui sont des règles en apparence d'équilibre, qui en réalité sont extrêmement déséquilibrées et favorisent toujours les mêmes, les puissants, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont hégémoniques, ceux qui tiennent un discours orthodoxe, j'ai peu de chance pour l'instant, mon travail a peu de chance d'être pour l'instant récupéré par le système télévisuel. Voilà. Pour l'instant. Peut-être certains films le seront, je sais pas. Mais c'est une question que je me pose, c'est jusqu'à quel point on joue le rôle de bouffon du roi, jusqu'à quel point ce que l'on fait dérange vraiment le pouvoir. C'est des questions que je me pose, et là-dessus, j'ai pas de certitude. Hein. Je suis là dans le doute aussi, et je vais pas faire le fier, je vais pas vous dire je suis absolument sûr que je fais chier le pouvoir en faisant ça. Voilà, je sais pas, mais en tout cas j'ai cette inquiétude et je me pose ce genre de questions, et j'espère que mes films sont suffisamment, on va dire, radicaux pour qu'ils puissent pas être récupérés rapidement, en tout cas par cette société du spectacle. Voilà, je dis ça de manière absolument pas péremptoire, hein, je j'ai pas de certitude là-dessus. Et en tout cas, j'étais ravi que vous puissiez à Périgueux les voir tous quasiment, puisque grâce à Michel Thévenin de la bibliothèque municipale, il y a eu donc une rétrospective qui s'arrête avec ce film. Et en tout cas, donc, merci à Périgueux et aux gens de Périgueux d'avoir accueilli mon travail. Voilà. Bonsoir.
Pour moi, la définition du travail, c'était un échange de mes compétences contre de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins. Aujourd'hui, ma définition du travail, c'est plutôt l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils utilisent selon nos compétences pour faire fructifier leurs intérêts à eux. Les gens, ils ne se rendent plus service s'ils s'utilisent. C'est dommage. Donc, il y a deux sortes de souvenirs. Les souvenirs liés directement au travail, aux conditions de travail, et ce mauvais souvenir lié à ce que le travail m'a empêché de faire ou à cause du travail. Un Noël, hein, quand j'étais en apprentissage, J'appelle ma mère tranquille, je dis allô, j'ai débarqué, tout ça. Elle me dit ah, on n'avait pas prévu que tu viennes, alors moi, je dis laisse tomber, c'est pas grave, je vais pas vous embêter. J'ai passé la soirée avec des collègues de boulot à boire du Malibu, du whisky, à se lever avec un mal de bide. Et l'autre type de mauvais souvenirs liés au travail, c'est dans le travail lui-même, c'est je me suis jamais levé le matin avec des mains aussi rêches. En arrivant à peine à brûler les cigarettes tellement t'as les mains qui te font mal le matin. T'as du mal à sentir la peau de ta copine ou puis les pieds. Toi, je travaille dans la restauration, alors les pieds dans l'humidité, les pieds, les mains, toute la fatigue. C'est des choses que malgré tout tu supportes, mais je crois que si t'avais le choix, bah, ce que j'aurais fait si j'avais pas travaillé, je me serais peut-être cultivé plus, j'aurais porté plus d'attention aux gens, plus d'échanges, parce qu'aujourd'hui on est vachement seul à s'occuper chacun de sa petite merde, prendre le temps d'aimer les gens, prendre le temps de respirer, quoi. De construire, et pour finir bossu avec les mains sèches, quoi. Tu te lèves, bon, tu vas pas prendre ta douche, hein, normal, soit tu la prends l'après-midi, soit tu la prends le soir avant de te coucher. Tu te lèves, hop, tu mets ton pantalon, tu te mets les pieds en livre de cuisine, tu roules un petit pétard, histoire de savoir où tu vas sans savoir, quoi. Tu travailles jusqu'à 15h, ça speed, tout ça, on te gueule dessus, t'as à peine le temps de manger, ensuite 15h, 15h30, t'as ta petite pause. Tu penses à quoi? Bah, tu fumes des gaz, tu vas à la boulangerie acheter un truc à bouffer, tu fumes 2-3 parties d'échecs avec tes potes, enfin tes collègues, ils deviennent tes potes par évidence. Et ensuite tu recommences à 18h30, et puis t'enchaînes jusqu'à 11h, minuit, 1h parfois. Et puis après minuit, bah, t'as fini, t'es sur les rotules, mais à la fois t'as du speed. Donc bah tu vas boire un coup, genre, t'as 2-3-4 heures du matin, et puis bah voilà, quoi, tu te réveilles le lendemain matin, et tu recommences, et puis arrive le week-end, et puis... trop prose le premier jour, le deuxième jour t'essaies d'en profiter, mais les nerfs se relâchent, alors t'es pas en super forme, et après tu retournes au travail. Voilà, hormis les 5 semaines de congé payé, c'est comme ça. 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 C'est comme ça.
Forêt reclus à l'Élysée, pour le dernier volet de la série d'émissions consacrées au travail de Pierre Carle. Ces émissions, vous pouvez les retrouver, ainsi que les autres, sur le web. Donc c'est audioblog.arteradio.com/forêt reclus à l'Élysée, tout attaché sans accent. Donc cette série, il y a une première partie, c'est la première partie de ce qu'on a entendu ce soir, le débat sur fin de concession à Cap Cinéma. Il y a le débat sur le film Guérilla française. Et il y a l'entretien avec Pierre Carle dans les studios de la radio.
Alors moi, je tenais à remercier Fabrice pour avoir capté tous ces sons, que ce soit à la bibliothèque ou à Cap Cinéma. Donc nous ne vous souhaitons pas bon vent, mais plutôt bonne tempête, en espérant que... il y en a beaucoup et de plus en plus énormes. Et comme ça, on va beaucoup mieux respirer. Et pour respirer encore un petit peu, on va tout de suite écouter un morceau du professeur Choron. Au revoir, à l'année prochaine.
Petit con pour souffler débile, toute la journée dans la gueule, un biberon, quatre caoutchoucs synthétiques de merde. Et il a pas chié le petit con, il a pas fait son rôle petit con, et on lui tape dans le dos petit con. Et guilé, et il ressemble à son père de merde. Et guilé, il a les yeux couleur merde, de sa mère de merde. petit con boursouflé débile, dans son berceau en dentelle de merde, sur cette planète de merde. Oh la testiculose, oh la testiculose, vive la testiculose. Boursouflé débile est devenu un jeune con d'adolescent. Alors là, s'il y a un âge con, c'est bien l'adolescence de con. Première émotion sexuelle, ça lui gratouille entre les jambes, jeune con. Prends-toi, fais pas chier le monde, et on lui apprend à aimer les fleurs, au jeune con. Les fleurs t'emmerdent, et on lui apprend à aimer les arbres, jeune con. Les arbres t'emmerdent, jeune adolescent de con sur cette planète de merde. Oh la testiculose, oh la testiculose, vive la testiculose. Est devenu un gros con d'adulte. Alors là, si la terre de merde elle porte des gros cons, c'est bien les gros cons d'adultes. Crois tout savoir les gros cons, ça veut rien les gros cons. Pour traverser une rivière, faut qu'ils construisent un pont. Gros cons d'adultes veulent pas louper le feuilleton de la télévision, les gros cons. Les pieds dans leurs pantoufles de merde. Gros cons d'adultes sur cette planète de merde. Oh la testiculose, oh la testiculose, vive la testiculose. Vieillesse, même pas la peine qu'on en parle. Quand on est vieux, on n'existe déjà plus. On est foutu. Vieille serpillère de merde, juste bon à bouffer, à chier. Un pied dans la tombe, un pied pour nous faire chier. Heureusement, vont bientôt crever les vieilles serpillères de merde. Et on va faire un grand trou, et on les foutra dans le trou, et de la terre par-dessus, et on n'en parlera plus. Oh la testiculose, oh la testiculose, vive la testiculose. Spermatozoïde, petit petite bête ovoïde, entre les jambes de papa, sur nos nous étions bien là. C'était la sécurité, à tout chaud et à manger, pas peur de la solitude, et tous une multitude, dans l'espace de deux mois, entre les jambes de papa.